On avait tellement de choses à vous raconter lors de notre table ronde qu'on a été obligé de la séparer en deux. Alors cette deuxième partie, un petit peu plus orientée UI, on va vous parler de MAUI encore, de Windows UI et également du Windows Community Toolkit. Alors saison 3, épisode 54, c'est parti! Bien, et ben bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de rentrée. Alors on est à l'épisode 54 de notre saison 3, puisque c'est la nouvelle saison. Et pour cet épisode, j'ai la joie de recevoir Olivier Dahan. Bonjour.
Bonjour.
Microsoft MVP depuis 2009, développeur technologie, fondateur de la société Inaxos, société de consulting et de formation sur .NET, C#, MAUI et WPF. Et j'ai également Simon Mourier, bonjour.
Bonjour.
Ex-Microsofti, fondateur de la société Sofluent et développeur indépendant.
Co-fondateur, mais je ne suis plus chez Sofluent.
Oui, tu n'es plus chez Sofluent. Aujourd'hui, on n'est que tous les trois, donc ça va être un petit épisode rapide, mais bien dense. Et pour compenser, il y a Olivier qui voulait nous parler de comment accélérer son code grâce aux templates.
Oui, tout à fait. C'est un petit truc auquel on pense pas souvent. C'est pas le truc extraordinaire dont on a envie de parler pendant des heures. Mais je trouve que c'était bien d'en parler un petit peu. C'est-à-dire que pour accélérer son développement, oui, surtout la mise en place de son développement. Alors, on va me dire, oui, on ne commence pas des projets neufs 10 par jour, en général, en pagaille. Donc, ce n'est pas un temps, quand on travaille 3 ans sur un projet, en général, il a été fait une fois au départ, puis après, on travaille dessus. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, dans les petites équipes ou dans les équipes moyennes ou dans les entreprises, souvent, on fait des petits softs qui durent quelques jours ou quelques semaines à développer pour un service, pour un autre. Donc, on est souvent en train de démarrer des nouveaux projets. Et puis, il y a un aspect, moi, que je trouve assez essentiel dans tout ça, dans la facilité ou pas de pouvoir démarrer des nouveaux projets, c'est que moi, à titre personnel, par exemple, j'utilise beaucoup LinkPad, que vous devez certainement connaître, qui est cette espèce de petit utilitaire qui existe avec des extensions payantes pour avoir l'IntelliSense, etc., mais qui existe aussi en version gratuite, et qui a même maintenant, aujourd'hui, l'intégration de l'IA. Si on a une clé API OpenAI, on peut la rajouter dedans. Mais de base, ça marche très bien et ça permet très facilement de tester quand on a une idée d'algorithme, un morceau de code C#, etc. Ça évite d'ouvrir Visual Studio ou de fermer le projet qu'on est en cours ou d'ouvrir une deuxième fenêtre. Enfin bref, ça permet d'aller vite et de se rendre compte d'un truc qu'on va pouvoir réinjecter dans son projet sans pourrir le projet sur lequel on travaille. Et ça, c'est très vrai pour du code et grâce à LinkPad notamment. Mais on n'a pas vraiment d'équivalent dans Visual Studio. C'est-à-dire que dès qu'on veut faire quelque chose au niveau visuel, tester un effet sur un bouton, je ne sais pas, une animation, un machin, etc. Ben là, on ne peut pas utiliser LinkPad. Visual Studio Code, c'est à peine moins enquiquinant que Visual Studio. Et ça, en fait, c'est tout ça, c'est lié au fait que les templates qui sont livrés par défaut par Microsoft, hélas, sont véritablement très simplistes. Il n'y en a pas beaucoup de choix. Par exemple, si je prends l'exemple de MAUI, que je connais très bien, MAUI, vous n'avez que deux templates qui sont fournis. Vous avez le template MAUI pour créer une application MAUI et le template pour faire une bibliothèque de classe MAUI. Et c'est pareil pour WinUI, par exemple. WinUI, c'est application WinUI ou template pour une bibliothèque de classe WinUI. Et quand on regarde, par exemple, pour MAUI, c'est forcé, c'est déjà de base, depuis quelque temps, ils obligent à utiliser le shell, par exemple, comme système de navigation. Alors, c'est pas grand-chose à enlever, vous allez me dire, on peut enlever le truc et puis remettre son propre truc, mettre une navigation page ou autre chose. Mais seulement, c'est chiant, pour être clair. Si on avait un truc aussi pratique que LinkPad, ça serait vraiment génial, mais bon, ça n'existe pas. Mais par contre, on peut rendre au moins la création de ces projets, qui sont des projets de test, qui sont des projets de POC, qu'on fait, même quand on travaille sur un gros projet, on a besoin de commencer des projets assez souvent. Et ça peut décourager, et souvent, moi, je me suis vu, par fainéantise, dire, ça risque de marcher, puis on bricole dans son projet, et puis on débug après. Et ça, c'est pas bon. Il faut avoir un outil qui permette de le faire. Alors, il existe en fait le Visual Studio Store, dont vous avez déjà certainement entendu parler, qui est accessible depuis Visual Studio, et qui vous permet d'installer notamment ce qu'on appelle des VSX, des sortes de modules supplémentaires qui s'installent. Et il y a plein de choses qui existent, ça vaut le coup d'être regardé, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a plein de choses intéressantes. Et là, ce dont je voulais vous parler, c'était de ceux qu'on appelle les templates, en fait, qui s'appellent Template Studio. Les Template Studio, en fait, ce sont des séries de templates pour différentes plateformes. Ça marche pour WinUI, ça marche pour WPF, ça marche bien sûr pour MAUI, et ça marche pour UWP, qui n'est plus trop à la mode, mais enfin, ça marche aussi pour UWP. On n'est pas obligé d'installer les quatre, bien sûr, on n'installe que celui ou ceux dont on a besoin et avec lequel on va travailler. Et ces extensions, elles vont permettre, quand on va créer un nouveau projet sous Visual Studio, bah, au lieu d'avoir le bête template de base, je veux dire, qui n'est pas satisfaisant, on va pouvoir utiliser ce template-là qui va afficher un wizard un tout petit peu mieux fichu et beaucoup plus complet que le truc de base qui vous demande juste la version de .NET que vous voulez utiliser, en fait, en gros. Et là, vous allez avoir plein de questions qui va vous permettre de commencer dès que le projet va être créé. Vous allez être dans un environnement qui est déjà préétabli, programmé correctement, avec les bonnes règles, etc. Et par exemple, si on prend le wizard pour MAUI, on va pouvoir avoir le choix, par exemple, d'avoir du contenu Blazor Web View. Dans ce cas-là, il va paramétrer les choses pour que ça puisse se faire facilement. On a une case à cocher et il va intégrer automatiquement MVVM. Donc, il va intégrer le toolkit MVVM Microsoft, mais c'est celui qu'on utilise en général avec MAUI et de plus en plus sous .NET d'ailleurs. Il va vous demander, au niveau de la navigation, si vous voulez une navigation par le shell, par une navigation de page ou rien du tout, si vous voulez commencer sur un truc blank. Je veux dire, si vous avez des personnels, des handlers ou des composants personnalités, si vous voulez des snippets C-Sharp Example qui va à ce moment-là intégrer dans Visual Studio, et pendant tout le long de votre projet, votre truc, vous aurez des petits snippets qui vont vous faciliter la vie. Alors, tout ça, c'est vachement pratique. C'est un peu, je dirais, une sorte de faux link pad pour Visual Studio. Dès qu'on veut travailler sur du visuel, dès qu'on veut faire un peu de test, bah, on n'a pas d'équivalent de link pad qui est pour C-Sharp. Et pour Link, et on n'a pas la même chose pour le visuel. Grâce à ces templates-là, en fait, on retrouve une certaine liberté, quelques cases à cocher, un wizard qui est sympa, et on va pouvoir tout de suite tester, faire un POC, tester son code et voir si ça marche ou pas, sans s'enquiquiner. Alors, si on est sur WinUI, par exemple, pour avoir un autre point de comparaison, pas seulement qu'avec MAUI, après on va dire que je suis monomaniaque, donc WinUI, par exemple, pareil, hein, c'est WinUI vierge ou bibliothèque de classe WinUI, c'est tout ce que Microsoft livre. Dans le template studio pour WinUI, vous pouvez choisir les styles de navigation entre le panneau de navigation, la barre de menu classique ou un modèle vierge, l'intégration du MVVM Toolkit aussi qu'on peut choisir ou pas. Dans le cas où on choisit, il va créer automatiquement des vieux modèles, des services, enfin en tout cas les arborescences, etc. Tout ça, c'est chiant à faire quand on le fait au départ. La sélection des pages et des modèles, donc vous allez pouvoir choisir comment vous voulez que les pages soient reliées, les vieux modèles soient reliés entre eux avec les pages, et puis des fonctions avancées de déploiement, par exemple comme le MSX Packaging, ou de pouvoir gérer des options avec MS Test automatiquement. Et on a même des options qui permettent d'avoir le système de all-in-one quand il compile l'exe avec toutes ses dépendances en un seul et unique package qui est pratique pour le distribuer. Donc, on a tous ces avantages-là. On les retrouve bien sûr pour WPF, même si c'est un peu vieilli, mais il y a encore des gens qui font WPF. WP aussi,
dont moi.
Principalement sur ces plateformes, MAUI et WinUI, qui sont un peu plus modernes. Quoi, je veux dire. Et voilà, donc c'était ce petit truc-là que je vais porter à la connaissance de tout le monde, parce que tout le monde ne connaît pas forcément d'abord le Visual Studio Store, les gens ne vont pas forcément s'y balader, il y a plein de choses intéressantes, et ces histoires de templates qui permettent d'accélérer le développement, et surtout le développement des POC, dont en général qu'on hésite à venir salir son code de production pour tester une idée. Quoi, je veux dire. Donc ça permet de simplifier tout ça, et je trouve que c'était un truc sympa, ça valait le coup d'être dessus en ce début d'année scolaire où tout le monde prend des bonnes résolutions pour travailler vite et propre. Voilà.
C'est vrai que quand ils avaient lancé WinRT, il y avait ce genre de choses qui existaient, il me semble. Mais donc là, si je résume, dans Visual Studio, on va dans extensions, et on fait gérer les extensions. Et là, on peut, d'ailleurs, ils ont refait complètement le gestionnaire d'extensions avec les dernières versions de Visual Studio. Ouais. Et là, on tape Template Studio fort, et puis c'est là et où on a...
Template Studio MAUI, si on veut directement aller sur celui de MAUI, Template Studio WinUI, si on veut celui de MIUI, et on va tomber sur le V6 installé. Quoi.
D'accord. Et, donc, et ça, c'est maintenu par qui ? C'est fait par qui ?
Alors, c'est maintenu depuis super longtemps. Je ne pourrais pas te dire sans bêtise de tête qui le maintient, mais ça existe vraiment depuis très longtemps, en fait, ces machins-là. Et il y a des centaines de milliers, de millions de téléchargements. Et je sais que j'en ai déjà utilisé il y a déjà très longtemps. Et ça existe toujours. Et c'est toujours bien maintenu à jour. Parce qu'il y a toujours les dernières versions de C-Sharp, les dernières options de Visual Studio, C-Sharp, les dernières versions de C-Sharp sont prises en compte. Donc c'est quelque chose qui,
C'est ce qui est
jusqu'à maintenant,
sur,
depuis des années,
c'est
vient
sur
au
GitHub
monde.
aussi, c'est ça? C'est la même chose qui est sur GitHub, je pense.
Je pense qu'on doit les retrouver sur GitHub, oui.
Ouais, parce que si c'est ça, enfin c'est sous la branche Microsoft, quoi. Donc je pense que ça doit être des gens de Microsoft et des MVP, des choses comme ça, quoi.
Oui, je
Ouais.
pense qu'il y a un
Comme
peu
les
de tout le monde, mais
Community
c'est proche de
Toolkit et tout
Microsoft.
ça, je pense. C'est des très proches, ouais, c'est ça.
Oui.
Ouais, là, je regarde, là, justement, je suis dans Visual Studio, là, et effectivement, c'est une extension officielle de
Ouais, c'est
Microsoft.
officiel, c'est ça, hein, c'est bien ça.
Ouais,
Je
ouais.
ne voulais pas m'avancer parce que je ne me rappelais plus exactement, mais oui. C'est un truc très sérieux, en tout cas.
Ouais, donc ça permet effectivement de lancer rapidement une petite interface et puis après de...
Et dans les
Ouais, puis
dernières
d'avoir
versions,
d'autres
d'ailleurs,
options, quoi,
on a
ouais.
vraiment beaucoup, beaucoup d'options de configuration. Hein. Il faut prendre le temps de lire parce qu'on a plein, plein de choses. Mais ça permet, une fois qu'on a coché les bonnes cases, d'aller tout de suite au vif du sujet.
D'accord. Ok, super. Bien, ben justement, puisqu'on est dans les interfaces, Simon, toi, tu voulais nous parler de Winui.
Oui, bah, c'est un petit update pour la rentrée, effectivement. Donc, je rappelle. Alors, Winui, effectivement, il peut être utilisé dans MAUI. Bon, je ne vais pas en parler parce que il y a des spécialistes. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est indépendant de MAUI, évidemment. C'est chapeauté par un package qui s'appelle le WinApp SDK. Donc, c'est un SDK proposé par Microsoft qui contient d'autres choses que WinUI 3. Par exemple, je crois que la WebView 2 fait partie du WinApp SDK. Il y a un certain nombre de choses qui en font partie, dont WinUI 3. Donc WinUI 3, en gros, c'est un peu la suite de UWP. Il ne faut pas confondre avec WinUI 2, c'est-à-dire que c'est assez différent. Par contre, ça vient du même source au départ, c'est-à-dire que Microsoft a pris UWP et puis ils l'ont modifié pour l'intégrer justement dans ce WinApp SDK et pour l'ouvrir un peu plus que UWP, puisque il n'y a pas la notion de sandbox et de choses comme ça qu'on avait dans UWP. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que c'est open source, c'est-à-dire que la DLL principale et d'autres qui s'appellent Microsoft UI.xaml, elle est open source par Microsoft, donc elle est sur le projet GitHub. Donc c'est un gros, gros projet avec beaucoup de vrais morceaux de C++ dedans. C'est pas un projet participatif, c'est-à-dire qu'ils ont clairement dit que c'était pas la peine de faire des pull requests ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que je pense que chez Microsoft, c'est hébergé en interne et puis après, c'est poussé sur GitHub. Mais quand même, pour comprendre un peu comment c'est fait, des fois, quand on a des problèmes, on se pose des questions. C'est
Ouais,
quand même très intéressant. Voilà.
pour avoir le code source,
Ouais, et
ça
puis
passe
c'est
là.
pour le coup, c'est un gros projet, c'est plus WinRT, orienté UI, etc. Donc il y a pas mal de choses, c'est assez intéressant. Pour voir un peu ce que ça donne d'ailleurs WinUI 3, moi je trouve que un truc qui est pas mal, c'est d'installer ce qui s'appelle la WinUI 3 Gallery, qui est dans le Microsoft Store.
Ouais,
Et là, on
tout à
voit
fait.
tout de suite ce que c'est. C'est pas mal, justement. C'est pas mal mis à jour. On voit quand même que c'est assez sympa. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est pour faire des interfaces, on va dire, plus modernes que ce qu'on peut faire en WPF ou en WinForm. C'est pas pour ça que tout ça va disparaître, mais c'est plus moderne dans le sens que derrière, ça utilise en fait Direct Composition, DirectX, etc. Alors que WPF, c'est un peu ancré dans DirectX 9 et WinForm, bah, c'est sur Win32. C'est-à-dire WinForm, c'est basé sur les fenêtres Windows, etc. Alors tout ça marche encore très bien, mais disons que c'est plus moderne, c'est ce qui permet de faire, bah, par exemple, des dégradés, des brosses spéciales transparentes, des choses comme ça, des animations, de manière beaucoup plus simple que ce qu'on pouvait faire en WinForm. En WinForm, c'est assez compliqué quand même. Et puis voilà. Et puis c'est un peu quand même Microsoft, mais même si c'est un projet, ça fait à peu près 3-4 ans que c'est démarré. Au début, ça n'allait pas très très vite, mais malgré tout, ça avance. C'est-à-dire que régulièrement, ça avance, ça avance. Et il y a de plus en plus de choses qui sont dedans. Donc c'est quand même quelque chose, moi je pense, quand on développe des UI desktop sur Windows, qu'il faut connaître. Sachant que je rappelle qu'à la différence des WinForm et de WPF, on peut faire du C++, voire d'autres langages dessus. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc c'était la version 5 et puis bah, ça tombe bien puisque hier soir ou ce matin, On est passé à la version 1.6, la version 1.5, on est passé à la version 1.6. Il y a quelque chose qui est intéressant, moi je trouve qui est très intéressant dedans, c'est qu'on a dedans on a le support partiel, mais quand même pas mal, de native AOT, dont j'avais déjà parlé dans un précédent dev, que moi je trouve super intéressant, qu'on va probablement avoir pratiquement complet aussi dans WinForm et WPF avec .NET 9. Ça permet donc, je rappelle, Native AOT d'avoir de compiler finalement dans un code natif, donc qui n'est plus du .NET, et qui on va gagner au démarrage, ça va aller plus vite au démarrage, ça va consommer même moins de mémoire. Et un intérêt aussi qui est loin d'être nul, à mon avis, c'est qu'on peut ne shipper du coup qu'un binaire pratiquement. Ça dépend des applications évidemment, mais si on prend même quelque chose d'assez compliqué, on peut shipper un seul binaire et ce binaire peut se suffire à lui-même. Donc ça, c'est assez intéressant et ça répond quelque part à certaines problématiques de packaging et de déploiement qui sont là, effectivement, qui n'étaient pas évidemment avec UWP, c'était un peu particulier, mais on l'a aussi avec WinUI 3 jusqu'à présent, et puis on peut l'avoir avec du .NET Core, parce qu'on a 300 DLL à se trimballer, quoi.
Intégré,
Donc
ouais.
là, justement, ça permet de faire ça. Alors, il y a des contraintes. On ne peut pas forcément prendre un code existant et compiler. Ça ne marche pas comme ça, il y a quand même du travail des fois à faire. Mais c'est quand même quelque chose de très intéressant, moi, je trouve, en tout cas à connaître, quoi. Voilà, donc dans ce nouveau, comment dire, avec les dernières versions de Visual Studio, est apparu un nouveau workload. C'est-à-dire que les workloads, c'est je développe en C++, je développe en .NET, je fais de l'Azure, je fais du cloud. Et maintenant, il y a un nouveau bloc complet qui s'appelle Windows Application Development, qui donc contient Winamp SDK, WinUI, etc. Et donc, ils ont supprimé le workload Universal Windows Platform Development. Ça fait, je sais pas, un mois, un truc comme ça. Donc ça, c'est important. Ça donne une indication aussi sur où est-ce qu'on va, hein, quand même.
Ouais,
Donc,
oui, ça fait sens.
voilà.
D'ailleurs, même
Donc,
dans Maui, quand on s'accompile depuis un certain temps, l'option Windows n'existe plus, même dans les idiomes, dans les on platform, etc. Maintenant, c'est WinUI qu'il faut utiliser, et c'est ça qui génère en fait.
Et qu'est-ce qu'il faisait en Windows alors du coup?
Avant, il faisait du UWP.
Ah, c'est ça, il faisait du WP, d'accord.
Et même pour tester, dans les trucs conditionnels, quand tu veux tester pour une plateforme donnée, on avait Android, iOS, etc. Et c'était Windows pour développer Windows. Aujourd'hui, le truc, en plus, qui est une string, donc il ne faut pas se tromper, je veux dire, c'est WinUI qui permet de tester si tu développes sur Windows ou pas.
Moi, j'ai déjà essayé effectivement, et c'est assez pratique. Enfin, voilà. Donc, oui, je pense que voilà, parce que je sais,
C'est l'avenir,
il y
oui.
a pas mal de gens qui se plaignent pour plein de sujets, parce que il n'y a pas tout à fait encore ce qu'on avait dans UWP. Par exemple, on n'a pas les inks, pouvoir faire des dessins sur une tablette ou des choses comme ça. Les éléments, les contrôles qui permettent de faire ça, par exemple, ils ne sont pas disponibles en WinUI alors qu'ils étaient disponibles en UWP. Donc il y a des petites choses comme ça qui ne sont pas un pour un, mais ça avance quand même pas mal. Il y a aussi un nouveau type de projet, MS Test, spécial WinUI 3. Donc, qui permet de tester par exemple les classes librairies. Si on fait des classes librairies WinUI 3, on peut les tester en MS Test. Avant, c'était vaguement possible, mais c'était un peu le bazar. Maintenant,
Compliqué.
c'est vraiment tout neuf, tout propre. Donc, voilà, c'est pareil, ça donne aussi une bonne vision. Et puis, dans cette nouvelle version, alors il n'y a pas de grande nouveauté à part Native AOT, que moi je considère quand même une assez grande nouveauté. Il y a par contre une amélioration de tous les contrôles qu'on a déjà. Les widgets, les trucs comme ça, tout ça, et voilà, ils arrêtent pas d'en rajouter. Ce qui est assez bien fait dans l'application WinUI 3 Gallery, c'est que toutes les nouveautés sont marquées d'un point bleu, ce qui fait que c'est pas mal parce qu'on peut assez vite voir ce qui a été rajouté, ce qui a été modifié, ce qui a été même corrigé, parce qu'il y a aussi des bugs. Hein, donc voilà, c'est WinUI. Moi, je pense qu'il faut y aller.
Ah oui, il est temps, hein. D'ailleurs, pour rappel, ceux qui suivent le podcast, j'avais parlé de la sortie de WinUI 3 dans un podcast d'avril 2023. Donc, les gars, il est temps de vous y mettre.
Ouais, c'est clair. Oui, mais je sais que les gens se plaignent pas mal par rapport à WinForm et tout ça, parce que c'est peut-être
Voilà,
un
c'est
peu
une
plus
dinguerie.
compliqué, c'est peut-être un peu différent,
C'est
ou
ça.
même WPF qui ont des avantages certains. Mais voilà, si on veut faire des chouettes applis Windows, faut vraiment aller là-dessus. En tout cas, essayer d'y aller, et puis vraiment voir
Oui, surtout que
quels
dès
sont
qu'on
les problèmes
connaît
qu'on
C
a.
Sharp ou XAML, bon, c'est pas si différent, c'est pas si
Ouais,
monstrueux.
exactement, absolument,
Ouais,
absolument.
c'est encore une
On
énième
peut.
version de XAML, quoi.
Ouais, c'est
Oh,
ça. Bah, oui, mais c'est assez
Oui.
voisin quand même. Effectivement, c'est un
Ouais.
peu. Enfin, c'est très voisin du UWP, mais ça reste. Les principes sont quand même les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un XAML, il n'est pas compatible. Mais l'idée, quand même, si tu fais du UWP, il y a des trucs que tu sais. D'ailleurs, il y a des gens qui se font avoir parce que des fois, ils copient-collent du code du WP, pardon, WPF, du code WPF, et puis ça ne marche pas en WinUI3. Bon, c'est normal. Mais disons que les principes sont quand même très, très, très voisins. Et d'ailleurs, tu peux aussi utiliser, tu peux tout à fait utiliser des DLL pour WinForm en WinUI3, en fait. Hein. Tu ne peux pas l'utiliser directement dans le projet, mais tu peux faire des librairies, des class libraries avec du WinForm dedans. Et les utiliser dans ton projet WinUI3. Technologiquement, ça marche en fait, hein, il n'y a pas de problème. Par
D'accord.
exemple, les gens font ça pour le file picker qui est en fait est assez limité. Par exemple, il ne marche pas si tu tournes un admin ou des trucs comme ça parce que ça vient du WP ou tu étais dans la sandbox. Bah, le file picker, en fait, tu peux reprendre celui qui est en WinForm. En fait, tu n'as pas besoin de faire de l'interop ou des choses comme ça pour avoir le file picker et pour choisir des fichiers, pour que l'utilisateur puisse choisir des fichiers, quoi.
D'accord. Et au niveau des éditeurs tiers, je pense à Telerik ou Infragistic ou DevExpress, ils développent également
Ouais, ouais, ouais,
des.
ouais, ouais.
C'est aussi bien
Ouais,
développé
ouais.
que pour.
Alors aussi bien, écoute, ça fait un certain temps que je n'ai pas regardé,
Ouais.
mais donc je ne saurais pas te dire exactement. Mais j'ai pas trop de doutes sur le fait que. De toute façon, en général, la façon dont ils travaillent, ces gens-là, c'est qu'ils ont des trucs communs. Puis après, ils ont des outputs vers toutes les plateformes, en
Ouais.
fait. Hein, donc je pense que vu qu'effectivement, il n'y a pas une grande. Enfin, c'est pas très très loin en termes technologiques par rapport à UWP, voire WPF, on va dire que c'est quand même un peu plus loin des WinForms, mais du coup, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là, mais c'est vrai que j'ai pas regardé dernièrement, tu vois. Il faudrait faire un truc à vérifier, effectivement, les grilles, les choses comme ça, voir ce que font DevExpress et les autres. J'ai pas regardé, mais je peux pas te dire.
D'accord. OK.
DevDevDev.net. Richard Clark.
Alors moi je voulais vous parler toujours aussi de un petit peu d'interface. On en a parlé au début de l'épisode, justement du Windows Community Toolkit.
Ouais.
Et plus donc, alors je ne sais pas si parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais moi personnellement, j'utilise beaucoup le Windows Community Toolkit MVVM, puisque c'est
Ah, il est super.
qui est une partie de ce qu'il y a dans le Windows Community Toolkit. Donc ce Community Toolkit MVVM, bon, il hérite du toolkit qu'avait créé Laurent Bugnon il y a quelques années. Et puis quand il est rentré chez Microsoft, ça a mergé. Et donc c'est maintenu maintenant par Microsoft. Et dans les dernières versions, alors ça date depuis au moins un ou 2 ans, il y a une petite perle à l'intérieur. Qui permet, c'est ce qu'ils appellent des sources générateurs.
Ouais, c'est génial ça.
Donc, si vous faites du MVVM, vous savez que vos classes, par définition, il faut qu'ils implémentent Inotify Property Change. Donc, déjà, si vous le faites à la main, entre guillemets, bah, vous allez implémenter l'interface Inotify Property Change. Et à chaque fois que vous avez une propriété, que vous rajoutez une propriété, eh ben, il faut appeler le Rise Property Change avec le nom de la propriété pour que l'interface soit au courant du changement de la valeur de cette propriété. Donc dans le toolkit MVVM, vous avez un objet qui s'appelle le Observable Object. Et donc, il suffit que vos ViewModels vous héritent de cet Observable Object pour avoir directement déjà l'implémentation de Inotify Property Change, avec d'autres choses, mais bon, principalement, c'est ça. Et donc, mais encore une fois, vous avez quand même pas mal de code à écrire, c'est-à-dire que dans le get, bah, vous retournez le field correspondant. Donc, si vous avez un field, je ne sais pas moi, un private field name, Vous faites un get, vous retournez le name, et dans le set, il faut appeler la méthode de base qui est dans observable object, qui est le set property entre parenthèses ref name virgule value. Donc si vous avez une dizaine de propriétés dans votre view model, déjà vous avez 10 fois 5 lignes de code à écrire. Donc c'est un petit peu barbant parce qu'il n'y a rien de bien spécial à l'intérieur. Et surtout, dans le set, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez très bien écrire du code avant le set property et puis après le set property. Et ce qui fait que vous n'avez pas quelque chose qui est uniforme au sein de votre application. Si vous avez des développeurs qui, chacun de leur côté, écrivent du code un petit peu comme ils veulent. Donc maintenant, avec ce source generator, vous avez la possibilité d'ajouter un attribut à un champ. Donc vous avez votre champ private string name. Vous pouvez lui rajouter un attribut qui s'appelle observable property. Donc vous rajoutez juste ça. Et automatiquement, il va vous rajouter dans un autre fichier tout le code qui va bien. Donc avec le get et le set et l'appel des properties, l'appel du set property, mais également l'appel de méthodes partielles qui sont déclenchées avant le changement l'affectation de la nouvelle valeur et après l'affectation de la nouvelle valeur. Donc votre classe, il faut qu'elle soit partielle. Vous faites uniquement vous ajoutez uniquement votre observable object, votre private string name et après vous pouvez avoir tout ce que vous voulez au niveau de votre interface. Oui.
Juste pour petite précision, parce que ça pourrait faire peur aux gens, tu disais qu'il fallait hériter en fait de Observable Objects, ce qui n'est pas faux. On peut le faire comme ça, mais on sait très bien, ils ont eu cette bonne idée, que souvent nos objets, ils ont leur propre système d'héritage interne et que ça serait très enquiquinant d'être obligé d'hériter d'Observable Objects. Dans ce cas-là, en fait, on peut tout simplement placer la balise, l'attribut Observable Object devant le nom de sa classe. Oui. Et elle reste à hériter d'autres choses, mais elle va supporter quand même le code généré, et donc ça, c'est très important. Mmh. Voilà, juste parce que quelque chose qui peut gêner les gens.
Ouais. Donc, c'est cette première chose, le observable property, donc c'est ce premier attribut. Vous avez également un autre attribut qui est relay commande. Donc, quand vous voulez créer une commande au sein de votre interface, il faut déclarer. Enfin, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Il y a quelques lignes de code pour déclarer votre commande. Là, vous déclarez uniquement une méthode et vous lui rajoutez l'attribut relay commande et automatiquement, il va vous créer la commande correspondante. Donc vous pouvez très bien écrire private void save, et ben il va vous créer la méthode save commande. Ça marche également avec les méthodes asynchrones, c'est-à-dire que vous pouvez très bien créer une private async task save async et il va vous créer automatiquement votre méthode save commande. Et non pas async commande, il est assez intelligent pour voir que vous avez rajouté le async derrière, quoi. Parmi les autres attributs, vous pouvez rajouter également un attribut à une propriété, c'est relié avec les commandes, qui est, alors le nom exact, c'est notify can execute change for, et le nom de la commande. C'est-à-dire que quand vous changez la valeur d'une propriété, vous pouvez dire à une commande, attention, celle-là, il faut que vous réévaluez pour voir si elle peut toujours s'exécuter. Donc voilà, c'était juste pour... en gros, c'est à peu près tout. Après, il y a des petites finesses sur avec notamment les cancellation tokens, ce genre de choses. Mais c'est juste pour dire que c'était vraiment, à mon avis, dès qu'on fait du MVVM, c'est la librairie à utiliser. Ouais, voilà.
Alors j'en profite pour dire que justement, depuis août, la version du Community Toolkit 8.3, elle prend en charge WinApp SDK 1.6, WinUI 3 et le Native AOT, justement.
Oui. D'ailleurs,
Donc,
il y a,
ça, ce qui montre qu'ils le mettent bien, bien à jour. Enfin, ils sont à fond dessus, quoi.
Et dans le template, on a le choix, effectivement, dans ce dont je parlais, on a le choix de pouvoir intégrer MVVM tout de suite.
Ouais, je crois que justement pour WinUI, il y a le property, enfin le name quand la propriété changing qui n'existe pas ou un truc comme ça, je sais
Ah
plus.
oui, ah oui,
Ouais, je
c'est
crois qu'il y a,
possible.
et donc il c'est une petite finesse qu'ils ont dû mettre en place pour WinUI.
Par rapport à ta question, juste pour sur tu sais, les fournisseurs de composants tiers.
Ouais.
Alors ils en ont hein, des composants WinUI 3. Ils en ont un peu moins, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a peut-être moins besoin sur certains sujets. Mais ils en ont, voilà, ils en ont tous à peu près une trentaine avec des data grids, des
Ouais.
schedulers.
Il y a du Syncfusion aussi
Ouais. Mais ils en ont moins que si tu regardes le compte bête, il y en a moins que sur WPF et Winform. Mais je ne suis pas sûr que ça veut dire qu'il n'y en a pas.
Non, et puis l'histoire de WPF, elle date quand même d'il y a 30 ans, quoi. Donc il y a eu le
Ouais.
temps de rajouter.
Peut-être pas 30 ans, mais.
Non. 20, ouais.
Ouais,
20
c'est.
sans problème.
Ouais. Ok, bah écoutez, merci pour ce petit épisode très orienté UI. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, on avait le retour d'expérience de Christophe Maumer sur WinUI, sur pas sur WinUI, sur Maui, et il en a dit du bien. Donc,
C'est
t'es
bien.
rassuré, Olivier.
C'est très bien.
Ok, bah merci beaucoup, et puis bah à la prochaine.
À
Ciao
la
tout le
prochaine.
monde.
À la prochaine.